Les podcasts de l'Institut de France.
Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Il y a dans l'histoire des sciences une étrange sélection. On conserve les lois et on oublie les erreurs. Ce n'est pas un oubli innocent, c'est presque une méthode. Pour rendre la science transmissible, on la simplifie, on la clarifie, on l'épure. On transforme une histoire complexe en un récit lisible. On extrait des résultats et on efface les détours qui y ont conduit. On ne garde que ce qui tient, ce qui se démontre et ce qui peut s'enseigner. Ainsi, lorsqu'on parle de Kepler, on parle de ses lois, les orbites elliptiques, les aires égales, la relation entre période et distance, trois énoncés élégants, concis, presque transparents, qu'on peut écrire au tableau, commenter en quelques minutes, intégrer dans un cours d'introduction, trois lois qui semblent découler naturellement de l'observation, comme si elles attendaient d'être découvertes. Mais ce qu'on ne dit presque jamais, c'est que Kepler n'a pas commencé par là. Il a commencé par une erreur, et pas une erreur triviale, pas une approximation maladroite, mais une construction ambitieuse, cohérente, presque inévitable pour lui, l'idée que le système solaire est structuré par les cinq polyèdres réguliers. Si on veut comprendre Kepler, il faut prendre cette idée au sérieux. Non pas comme une curiosité historique, mais comme un moment essentiel de la pensée scientifique. Pour cela, il faut revenir au contexte dans lequel il travaille. À la fin du XVIe siècle, l'astronomie est dans un état intermédiaire. Le système de Copernic a déplacé la Terre, mais il n'a pas encore expliqué le monde. Il a changé la perspective, mais pas sa structure. Il a proposé un centre, mais pas une organisation. Les planètes tournent autour du Soleil, mais leur distance semble arbitraire. Leur nombre n'est pas justifié et leur disposition n'obéit à aucune règle évidente. Kepler est profondément marqué par une tradition qui remonte à Platon. Les mathématiques ne sont pas un langage parmi d'autres, elles sont le langage du réel. Elles ne décrivent pas le monde, elles le structurent. Parmi les objets mathématiques, certains occupent une place privilégiée. Les polyèdres réguliers. Il n'en existe que cinq. Cette propriété est remarquable, elle signifie que ces formes ne sont pas une famille ouverte, infinie, mais un ensemble fini, limité, presque nécessaire. Depuis l'Antiquité, on leur attribue une signification particulière. Dans le Timée, Platon les associe aux éléments du monde, le feu, la terre, l'air, l'eau et le cosmos lui-même. Ces formes ne sont pas seulement belles, elles sont censées être fondamentales. Kepler ne reprend pas cette idée comme une simple référence culturelle, il la prend au sérieux, au sens le plus fort du terme. Pour lui, si Dieu a créé le monde, il l'a fait selon des principes simples et parfaits, accessibles à l'esprit humain. Il n'y a pas de séparation entre mathématiques et théologie. Comprendre le monde, c'est comprendre l'intention qui l'a produit. Thank you. C'est dans ce cadre que se produit ce qu'on pourrait appeler l'intuition fondatrice de Kepler. Il constate qu'il existe 6 planètes connues et qu'entre leurs orbites, il y a 5 intervalles. Il sait aussi qu'il existe exactement 5 polyèdres réguliers. La correspondance est immédiate et surtout, elle a du sens. Dans un monde ordonné, une telle coïncidence ne peut pas être accidentelle. Elle doit révéler une structure. Kepler construit alors un modèle du système solaire dans lequel les orbites planétaires sont déterminées par l'emboîtement des polyèdres réguliers. Il imagine une sphère correspondant à l'orbite de Saturne, à l'intérieur de laquelle il inscrit un polyèdre, puis une nouvelle sphère, puis un autre polyèdre, et ainsi de suite. Le système solaire devient une construction géométrique, non pas une simple description, mais une architecture. Il est important de comprendre que Kepler ne procède pas comme nous le ferions aujourd'hui. Il ne dispose pas de données précises sur les distances des planètes et il ne peut pas tester finement son modèle. Ce qu'il voit n'est pas une correspondance numérique, mais une correspondance de structure. Le nombre de formes correspond au nombre d'intervalles et la géométrie semble imposer l'ordre. Et ça lui suffit. À ce stade, il serait facile de sourire, de voir dans cette construction une illusion, une projection, une tentative naïve d'imposer une harmonie du monde. Mais ce serait une erreur, car cette démarche repose sur une idée profonde, que le monde est intelligible, qu'il possède une structure et que cette structure est mathématique. Cette idée est encore la nôtre. Aujourd'hui, les physiciens cherche à comprendre les particules élémentaires à partir de structures abstraites, groupes de symétrie, algèbre de Lie, représentations, etc. Et ils supposent eux aussi qu'il existe une organisation profonde du réel, indépendante de nos observations immédiates. Sous cet angle, Kepler n'est pas du tout archaïque, il est profondément moderne. La différence n'est pas dans l'ambition, mais dans la manière dont cette ambition est confrontée au réel, car le réel résiste. Lorsque Kepler entre en possession des données de Tycho Brahe, il se trouve face à une situation nouvelle. Les observations sont d'une précision exceptionnelle et elles ne permettent plus de se contenter d'une correspondance qualitative. Elles exigent une exactitude. Or, cette exactitude met son modèle en difficulté. Les positions des planètes ne s'ajustent pas parfaitement à la structure qu'il a imaginée. Les écarts sont faibles, mais ils sont persistants. Ils ne disparaissent pas lorsqu'on affine les calculs. À ce moment, Kepler pourrait choisir de protéger son modèle, de considérer ses écarts comme des imperfections expérimentales, d'ajuster ou de corriger, d'interpréter. Il pourrait préserver la beauté, mais il ne le fait pas. Il décide de prendre les données au sérieux, même si elles contredisent ce qu'il croit. Il recommence ses calculs, explore d'autres hypothèses, tente de faire entrer les observations dans les formes connues, mais rien ne fonctionne. Peu à peu, une idée s'impose. Le problème n'est pas dans les données, il est dans le modèle. C'est une conclusion difficile car elle implique d'abandonner une idée à laquelle il tient profondément. Et pourtant, il le fait. C'est ici que commence la véritable découverte, car ce que Kepler abandonne, ce n'est pas seulement un modèle, c'est une certaine idée du monde. Jusqu'alors, le mouvement céleste devait être circulaire. Le cercle n'était pas seulement une commodité mathématique, mais la figure parfaite, celle qui convenait à la perfection supposée des cieux. Depuis l'Antiquité, cette idée s'était imposée avec une telle évidence qu'elle semblait indiscutable. Renoncer au cercle, ce n'était pas corriger un détail, c'était renoncer à une forme. Face à l'orbite de Mars en particulier, les écarts sont trop importants pour être ignorés. Ils ne peuvent être abordés par des ajustements mineurs ni expliqués par des erreurs d'observation. Kepler essaye tout. Il multiplie les constructions, modifie les paramètres, introduit des corrections. Il tente de sauver le cercle en le déformant, en le complétant et en le raffinant. Mais rien ne fonctionne. Alors, lentement, presque à contre-cœur, une autre possibilité s'impose. Et si la trajectoire n'était pas circulaire ? Ce moment est difficile à imaginer aujourd'hui. Nous savons que les orbites sont des ellipses. Et cela nous paraît presque naturel. Mais pour Kepler, c'est une rupture. L'ellipse n'a pas la perfection du cercle. Elle introduit une dissymétrie, un déplacement du centre, une inégalité. Elle est moins parfaite, mais elle correspond aux données. Kepler ne choisit pas l'ellipse parce qu'elle est belle. Il la choisit parce qu'elle est vraie. Et c'est là que réside le basculement. Les lois que nous appelons aujourd'hui lois de Kepler naissent de ce renoncement. Les planètes décrivent des ellipses dont le Soleil occupe un de ses foyers. Le rayon qui joint la planète au Soleil balaye des airs égales en étant égaux. Le carré de la période est proportionnel au cube de la distance. Ces énoncés sont d'une simplicité remarquable, mais ils ne sont pas le point de départ, ils sont le résultat. Il est frappant de constater que ces lois ne sont pas présentées par Kepler comme des évidences. Elles apparaissent dans un texte, Astronomia Nova, qui est tout sauf un traité ordonné. C'est un livre difficile, sinueux, parfois déroutant, dans lequel Kepler raconte ses tentatives, ses erreurs, ses hésitations. Il expose des pistes qu'il abandonne. Des calculs qu'il corrige, des idées qu'il rejette. Il ne reconstruit pas son raisonnement après coup, il le montre en train de se faire. C'est là un point essentiel. La plupart des textes scientifiques effacent les erreurs et présentent un chemin clair, cohérent, sans détour, donnant l'impression que la vérité s'est imposée d'un seul mouvement. Kepler fait l'inverse. Il écrit comme quelqu'un qui cherche. On pourrait dire qu'il pense à voix haute. Il montre que comprendre n'est pas un acte instantané, mais un processus fait d'essais, d'erreurs et de corrections. Son style est exceptionnel et profondément instructif. Il révèle ce que l'on oublie souvent, que la science n'est pas une accumulation de vérités, mais une transformation progressive de nos manières de voir. Ce que Kepler abandonne avec le cercle, ce n'est pas seulement une figure, c'est une exigence esthétique. Il accepte que le monde ne corresponde pas à ce qu'il voudrait qu'il soit. Il accepte que la vérité soit moins belle que l'idée qu'il s'en faisait. Et pourtant, d'une certaine manière, elle devient plus belle encore, car la beauté change de nature. Elle ne réside plus dans la perfection d'une forme imposée, mais de l'accord entre une forme et le réel. Ce déplacement est fondamental. Mais s'il est rarement mis en avant lorsqu'on enseigne les lois de Kepler, On ne raconte pas cette histoire. On présente les résultats, pas les renoncements. On donne l'impression que les lois ont été trouvées comme si elles attendaient d'être découvertes, mais elles ont été conquises. Et cette conquête a un prix, l'abandon des polyèdres. Il y a là une leçon profonde, car les polyèdres de Kepler ne sont pas une erreur ridicule. Ils sont une hypothèse sérieuse, cohérente, fondée sur les meilleures idées de son temps. Ils incarnent une vision du monde dans laquelle la géométrie exprime l'ordre du réel. Cette vision n'est pas fausse dans son intention, elle est fausse dans sa réalisation. Aujourd'hui encore, les scientifiques construisent des modèles abstraits pour comprendre le monde. Ils cherchent des symétries, des structures, des principes unificateurs. Parfois, ces modèles fonctionnent, parfois ils échouent. Mais même lorsqu'ils échouent, ils ne sont pas inutiles. Ils orientent la recherche, ils définissent ce qui ne fonctionne pas, ils permettent d'aller plus loin. Il en va ainsi des polyèdres de Kepler. Ils sont faux, mais ils sont féconds. Sans eux, peut-être Kepler n'aurait pas été conduit à examiner les données avec une telle précision. Il n'aurait pas été confronté à une contradiction aussi nette. Il n'aurait pas été obligé de renoncer. L'erreur n'est pas un accident, elle est une étape. Et pourtant, cette idée est rarement transmise. Dans l'enseignement, on privilégie les résultats. On cherche la clarté, la simplicité, l'efficacité pédagogique. On construit un récit dans lequel les erreurs disparaissent. Des auteurs comme Voltaire ont joué un rôle important dans cette transformation, en vulgarisant les idées scientifiques, en les rendant accessibles. Ils ont contribué à les organiser, à les simplifier, à les rendre lisibles. Mais en les rendant lisibles, ils les ont aussi transformés. Ils ont fait de la science un récit. Il faudrait peut-être apprendre à raconter autrement. Non pas seulement les succès, mais les tentatives. Kepler nous y invite. Son œuvre ne se réduit pas à ses lois. Elle réside aussi dans sa capacité à abandonner ce qu'il croyait. C'est peut-être là sa véritable grandeur.
Alors, pour illustrer Platon, le Timée, les polyèdres réguliers, il n'y a essentiellement aucun choix. Il faut écouter Bach. Vous avez entendu l'offrande musicale, bien sûr.
Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. le podcast de l'Académie des sciences.